Chapitre 5. Quatre jours étaient passés depuis les tristes événements que nous venons de raconter. Le jour venait de se lever et une longue file de paysannes acadiennes arrivait des villages voisins. Elles se dirigeaient vers le bord de la mer et emportaient tout ce qu'elles possédaient dans de lourds chariots. De temps en temps, elles s'arrêtaient pour jeter derrière elles un regard douloureux, afin de revoir une dernière fois leur maison. À côté d'elles, les enfants couraient et serraient dans leurs petites mains un jouet ou une poupée qu'ils n'avaient pas voulu abandonner. La triste caravane arriva bientôt à l'embouchure du Gaspereau. Sur la plage étaient entassés les meubles et toutes les affaires des paysans. Pendant tout le jour, les barques firent le trajet de la côte au navire, et durant le même temps, les chariots firent péniblement celui du village à la mer. Vers le soir, au coucher du soleil, on entendit du côté du cimetière des roulements de tambours dont l'écho pouvait s'entendre au loin dans la campagne. Les femmes et les enfants coururent aussitôt dans cette direction. Les portes de l'église s'ouvrirent tout à coup, puis les soldats sortirent, et derrière eux, les hommes du village, depuis longtemps prisonniers, et maintenant, triste et résigné. Les jeunes gens marchaient au premier rang. Les vieillards fermaient la marche, pendant que les femmes suivaient sur le bord de la route. Tous se dirigèrent ainsi vers le rivage. Évangeline attendait, silencieuse, à quelques pas de là. Elle était résignée, mais restait forte. Cependant, lorsque les hommes arrivèrent vers elle et qu'elle aperçut le visage de Gabriel, ses yeux se remplirent de larmes. Elle courut au-devant de lui, lui serra les mains, et appuyant sa tête sur son épaule, elle lui dit tout bas, « Gabriel, sois fort et courageux, car si nous nous aimons, rien ni personne ne pourra nous faire de mal. » Elle disait cela en souriant, mais soudain, elle se tut. Elle venait d'apercevoir son père qui s'avançait à pas lents. Hélas, comme il était changé! Ses joues étaient devenues pâles, la lumière dans ses yeux était éteinte, et il marchait lentement sous le poids du chagrin. Évangeline se jeta au cou du vieillard, qu'elle embrassa longuement. Même si sa douleur ne pouvait pas être consolée, elle lui dit les mots les plus tendres et les plus affectueux. Bientôt, la procession arriva sur le bord de la mer. L'embarquement commença. Dans le désordre qui se produisit à ce moment, des femmes furent violemment séparées de leurs maris. Des enfants, laissés seuls sur le rivage, tendaient leurs bras vers leur mère avec des cris désespérés. Basile et Gabriel furent transportés sur des navires différents, pendant qu'Évangeline, triste et désolée, restait avec son père sur la plage. Au coucher du soleil, l'embarquement n'était pas encore terminé. Bloqué d'un côté par la mer et de l'autre par les soldats qui rendaient toute fuite impossible, les fermiers acadiens durent passer la nuit sur la grève. Dans le village abandonné, la scène était également triste. Les animaux, revenant des pâturages, avaient repris le chemin de la ferme. Ils attendirent longtemps devant la porte qu'ils connaissaient si bien, mais personne ne répondit à leur appel. Le silence le plus profond régnait dans les rues. Plus un toit ne lançait de fumée dans l'air et aucune lumière ne brillait aux fenêtres. Les prisonniers s'étaient réunis autour de feux qu'ils avaient allumés sur le rivage. Partout, on entendait les voix désolées des hommes et des femmes auxquelles se mêlaient les pleurs des enfants. Le prêtre allait, d'un feu à l'autre, porter à chacun des paroles de consolation. Il arriva ainsi à la place occupée par Évangeline et son père. La figure du vieillard lui apparut extrêmement pâle. Les yeux du fermier étaient perdus dans le vide, comme s'il était désormais incapable de ne rien sentir ni de rien voir. Sa fille essayait vainement de l'encourager par ses paroles et par ses caresses. et lui offrait vainement à manger. Il restait immobile et muet. « Bénédicité !» murmura le prêtre d'une voix émue. Il aurait voulu parler davantage, mais la douleur qu'il avait sous les yeux le paralysait. Il posa silencieusement ses mains sur la tête d'Évangeline, en levant les yeux au ciel, puis il s'assit. Ses larmes se mélangèrent à celles de la jeune fille, et tous trois restèrent muets. Tout à coup, vers le sud, une lumière rouge et sanglante s'éleva au-dessus du village de Grandpré. Elle illuminait au loin le ciel et la mer, ainsi que les bateaux dans la rade. On vit alors sortir du toit des maisons d'énormes colonnes de fumée que la flamme éclairait d'une lueur sinistre. Tous les gens assemblés sur le rivage et ceux qui étaient dans le bateau considéraient ce spectacle avec terreur. Après le silence du premier moment, les malheureux Acadiens s'écrièrent dans leur désespoir « Nous ne reverrons plus jamais nos maisons du village de Grandpré. » La lumière de l'incendie était si forte que les coqs, croyant le jour venu, se mirent à chanter bruyamment. Dans l'intérieur des étables, les animaux, surpris par l'incendie, brisèrent leurs liens, franchirent les barrières et, rendus fous de peur, s'enfuirent dans la prairie. Ces bruits que le vent du soir apportait aux pauvres Acadiens augmentaient encore leur douleur. Le prêtre et la jeune fille, terrifiés par ce spectacle, mais incapables de prononcer une parole, avaient les yeux fixés sur cette lumière sinistre, toujours plus forte et d'un rouge de plus en plus vif. Quand ils se retournèrent pour adresser la parole à leur compagnon silencieux, ils virent qu'il était tombé en bas de son siège. Il était étendu et immobile sur le sable, mort. Le prêtre souleva lentement la main inanimée du vieillard, et Évangeline, terrorisée, s'assit auprès de son père en poussant de profonds gémissements. Puis elle perdit connaissance et laissa tomber sa tête sur la poitrine de cet homme chéri que la mort venait de lui prendre. Elle resta ainsi toute la nuit. Quand elle revint à elle, elle vit une foule de gens rassemblés autour d'elle. L'affection se lisait sur tous les visages. Tous, pâles d'émotion et des larmes dans les yeux, la regardaient avec compassion. La lumière de l'incendie qui se reflétait sur la mer éclairait cette scène de désolation. À ce moment, une voix bien connue de tous dit à la foule assemblée « Déposons ici son corps près de la mer. Quand des temps meilleurs nous ramèneront ici, nous déposerons avec pitié son corps dans le cimetière du village. » Ainsi parla le prêtre. Alors, on enterra sur le rivage le fermier de Grandpré. La cérémonie eut lieu sans cloche et sans livre, et fut éclairée par les lueurs du village que dévorait l'incendie. Pendant que le prêtre prononçait les prières des morts, le bruit des vagues de la mer semblait s'associer à la douleur de ces pauvres gens. Dès le premier jour de leur triste voyage, ils perdaient un de leurs frères, sans doute le plus apprécié. Aux premières lueurs du jour, le tumulte et le va-et-vient de l'embarquement recommencèrent. Puis les navires prirent la mer. Ils laissaient derrière eux le mort sur la grève et le village ensemble.